Hello! Le podcast Job & Sense revient dans tes oreilles avec un hors-série qui s'appelle Mon Rebond. Mon Rebond, ce sont des témoignages de personnes qui ont repris le chemin du travail après une période d'arrêt maladie. On parlera ensemble de comment ils ont vécu leur période d'incapacité de travail, de qui les a soutenus et de comment ils en sont arrivés à rebondir. Chaque histoire est unique, mais chaque discussion est riche de petites pépites à garder quelle que soit notre propre situation. Tu verras également qu'il n'y a pas une bonne façon de rebondir. La bonne façon de rebondir sera celle que tu choisiras et qui te correspondra. Le hors-série Mon Rebond a été créé pour compléter le salon Rebondir qui a lieu du 17 au 21 octobre 2022. Si tu écoutes cet épisode avant ou pendant la semaine du salon, il est encore temps de nous y rejoindre. Tu verras que parfois le son n'est pas excellent, mais comme on dit, mieux vaut fait que parfait. J'espère que ces épisodes te plairont autant à toi qu'à moi, parce que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à les enregistrer. Bonne écoute! Bonjour Stéphanie.
Bonjour Victoria, enchantée.
Oui, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de venir nous raconter ton rebond. C'est super chouette de pouvoir finalement raconter un peu ton parcours et là où est-ce que tu en es pour le moment. La première chose que je vais te demander, c'est si tu veux bien te présenter un peu libre à toi en quelques mots qui oui. Tu es.
D'accord. Donc voilà, moi je suis Stéphanie, j'ai 45 ans, je suis une passionnée des relations humaines et je suis une passionnée de voyages et de photos. Et voilà, j'ai eu la chance de faire une chouette expérience professionnelle jusqu'à maintenant, depuis presque 20 ans, vraiment dans les relations humaines. Donc voilà.
Chouette. Et est-ce que je peux te demander comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, comment va ta santé?
Oui, je me sens plutôt bien, je me sens assez reposée et au niveau de ma santé, pour l'instant, ça se passe assez bien.
Chouette. Et tu viens donc gentiment nous parler de ton rebond aujourd'hui. On va repartir un petit peu en arrière pour comprendre comment tout a commencé. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment ça a commencé, comment tu te sentais à l'époque et qu'est-ce que tu faisais?
Et donc, moi, comme je vous disais, j'ai un parcours en sciences humaines et donc j'ai travaillé principalement dans l'associatif et dans les ONG jusqu'en 2014. En 2011, en fait, j'ai intégré un très, très chouette projet d'insertion socio-professionnelle pour des jeunes de 18 à 30 ans, infra-qualifiés et qui essaient de se reformer pour trouver un emploi. Donc, quand on m'a mise à la tête de ce projet, j'étais très, très heureuse et très emballée parce que c'est un projet qui faisait sens pour moi, où il y avait vraiment cette envie de permettre à des jeunes d'avoir une seconde chance, de redécoller, etc. Mais petit à petit, mon projet n'a pas été aussi idéal que je le pensais. Donc, j'étais dans une petite structure où il y a eu énormément de changements, il y a eu des changements managériaux, il y a eu des changements structurels, il y a eu des changements organisationnels, il y a eu beaucoup de départs de gens avec qui je travaillais, il y a eu aussi des licenciements assez stricts et il y a eu un changement d'implémentation qui a fait qu'on a travaillé dans trois implémentations différentes et la dernière était dans des conditions de travail assez limites. Donc c'était un projet d'insertion socio-professionnelle vers le milieu de l'événementiel. Il y avait trois options concrètement. Donc, il y avait vraiment la recherche de jeunes pour travailler sur les événements. Il y avait aussi l'aspect plus logistique, donc gestion du matériel qu'on utilise sur les événements, donc les lumières, les scènes, etc. Et puis, il y avait le troisième projet, celui dont j'avais la charge donc de coordination pour les jeunes. Et j'ai senti depuis le départ que en fait j'avais le projet qui était un peu le moins glamour, le moins soutenu, et ça sentait assez fort pendant les réunions de travail qu'on avait. Et je voyais qu'on traitait pas de la même manière les jeunes dont je m'occupais que par exemple les jobbies. Donc déjà ça c'était un petit peu particulier. Et je pense que petit à petit, il a commencé à avoir vraiment un décalage entre les deux autres projets et le mien. Je me sentais très peu soutenue par ma hiérarchie. Et je pense que l'élément déclencheur, c'était une petite blague en réunion d'équipe où voilà, d'une manière un peu graveleuse, j'ai un de mes collègues qui a fait, mais toute façon, ton projet, c'est de la merde, on s'en fout, t'es jeune. Et je pense que pour moi, c'était un basculement, c'était une cassure parce que j'ai vraiment perdu tous mes idéaux, j'ai perdu ma confiance en cette institution et je suis vraiment restée, mais dépitée, j'ai plus su répondre. Et je suis repartie chez moi, mais vraiment avec une baisse d'énergie totale. Et donc je me suis réveillée le matin en allant, mais pas bien du tout, mais pas bien du tout. À l'époque, mon travail était délocalisé, hein, était du côté de Molenbeek, du côté de Beekland. Et je me souviens que tout le trajet, j'ai eu l'impression d'être dans une sorte de tunnel sonore, comme ça, où il y avait du bruit autour de moi. Moi, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Et je suis arrivée devant la porte de mon ASBL et j'ai pas su la pousser. Et je suis vraiment restée là et j'entendais qu'on me parlait, mais je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Et en fait, j'ai regardé mes collègues et j'ai fait demi-tour parce que je sentais que j'étais en train d'étouffer. Et là, je suis rentrée chez moi et je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, heureusement, moi, je suis très, très proche de ma famille et j'ai appelé mon père en disant, il y a un truc qui ne va plus. Et donc, là, on a un peu fait la réunion sommet familial, comme on veut très souvent faire chez moi. Et ma belle-sœur, qui travaille dans le milieu hospitalier, m'a dit « Non, non, mais là, ça ne va plus du tout. » Et on a réussi à m'avoir très rapidement un rendez-vous chez un psychiatre à Psy Pluriel. J'y suis allée sans grande conviction, parce que comme j'avais un peu mieux dormi, c'était quelques jours après, je me suis dit « Oh là là, ça va aller, ça va aller. » Et donc, je suis restée dans un bon déni. Hein. Tout ce qu'elle me disait, je n'y croyais pas, je ne comprenais pas. J'étais, ah oui, oui, mais enfin, vous exagérez. Mm-hmm. Et en fait, elle était très pédagogue. Elle a pris une feuille de papier, elle a dessiné une maison. Je ne comprenais pas vers quoi elle voulait aller. Et puis, elle a commencé à l'assurer partout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici Et en fait, elle m'a dit, bah, tu vois, une maison, normalement, ça a besoin de ses fondations, ses murs porteurs, etc. Elle m'a dit, bah, toi, tu n'as plus de fondations, tu n'as même plus de murs porteurs, tu es cramé de partout, tu vas t'effondrer. Et là, je me suis sincèrement très, très fort effondrée. Et j'ai vraiment une crise de larmes comme j'avais rarement eu. Et là, je me suis dit, en fait, ça ne va plus du tout. Et donc, j'ai négocié avec elle un arrêt de maladie, ce qu'elle voulait mettre 2 mois. Et ça, c'était inenvisageable pour moi. Je disais, bah, non, je ne suis pas malade, je suis très fatiguée. Vous avez raison, je suis brûlée, je suis fatiguée. Et j'ai accepté une semaine.
Mais ouais, donc tu n'acceptais pas encore le burn-out.
Non, non, ça
m'a... Mais on t'en avait déjà parlé directement quand tu avais fait ta réunion familiale, on t'avait déjà dit burn-out.
On ne m'avait pas dit les mots, mais on m'avait quand même expliqué que je n'allais pas très bien. En tout cas, puis d'autres copines aussi m'avaient dit que je n'allais pas très bien. Mais moi, comme je suis quelqu'un de très enjoué, très positif, pour moi, c'était très dur parce que c'était un aveu de faiblesse et je suis là, bah, à quoi vous venez et donc, ça m'a demandé plusieurs consultations avec des certificats à court terme pour accepter au bout de 4 mois que j'allais pas bien en fait. Donc moi, ça m'a pris 4 mois pour me dire, ben non, en fait, tu ne vas pas bien et d'accepter les signes qui étaient, mais pourtant hyper criants. Hein. Moi, j'avais des douleurs au dos, j'avais des troubles du sommeil. Je m'endormissais parce que j'étais épuisée, mais alors j'étais dans un état de sommeil d'hypervigilance. Donc je me réveillais, je faisais des nuits. Je m'endormais à 9h du soir, mais à minuit, j'étais réveillée et je restais réveillée jusqu'à 6h du matin. Donc, j'avais vraiment des troubles au niveau de voilà, j'avais des difficultés vraiment dès que je mangeais, j'avais des nausées et j'avais surtout des gros, gros troubles de concentration. Donc, je me suis rendu compte que ça, c'était très dur pour moi d'accepter. Je ne savais plus lire, mais même regarder une série à la télé, c'était impossible. En fait, j'oubliais. Je ne suivais plus. Et ça a vraiment été pour moi... une des phases difficiles parce que je pensais être très fière, c'est de me dire mais en fait je n'arrive plus à rien quoi. Ça c'était pour moi, c'était un des trucs les plus violents. Et aussi de pas me sentir, alors je me suis sentie très comprise et très soutenue par ma famille, par une partie de mes copines, mais alors par l'autre pas du tout, où je sentais que c'était des petites phrases assassines, parce que je pense que je me plaignais pas des masses et qu'elles se rendaient pas compte. Et donc, c'était « Oh là là, mais t'as de la chance, t'es en vacances, tu peux glander. » Et au fond de moi, je n'osais rien dire. J'étais là « Mais oh, je suis en train de crever. » Moi, j'avais cette sensation chaque jour de me dire « Mais j'ai tout fait et que j'étais en train de crever. Et alors, on continuait à me proposer de faire des activités et j'étais dans un truc, dans le mais vous comprenez pas, je ne sais plus. Et je n'arrivais plus. Et donc, même les choses, moi, je suis une grosse sportive, donc j'adorais aller nager. Et même aller nager, moi, simplement me dire, oh, je vais prendre mon vélo pour aller à la piscine, je n'y arrivais plus, quoi. Et ça, c'est des choses. Ouais, ça, c'est dans les choses très, très dures, moi, que j'ai vécues dans mon burn-out. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des burn-out beaucoup plus sévères que moi. Mais ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a très fort marqué, ce côté de. J'avais envie, mais j'y arrivais pas. Et en fait, les gens ne comprenaient pas mon état, parce que je n'arrivais pas à le montrer non plus. Je pense que j'avais aussi ma responsabilité par rapport à ça.
Oui, c'est ça. C'était facile de cacher finalement certaines choses par rapport à certaines personnes. Et mais en tout cas, c'est déjà chouette d'avoir un soutien de ton entourage proche,
Très
ce qui n'est pas
fort.
toujours le cas non plus. Et donc ça t'a pris 4 mois pour accepter, donc de passer le cap du déni, si on veut. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé quand t'as accepté?
Mais pendant ces 4 mois, j'étais fort accompagnée, hein. Donc, moi, j'étais accompagnée avec Psy Pluriel, qui est vraiment un super centre. J'ai une psy incroyablissime, mais incroyablissime, que je voyais toutes les semaines. Et puis ça s'est passé, on s'est vu toutes les 2 semaines, mais qui a été vraiment mon roc, mon pilier. Et je sais que c'est quelqu'un que je garderai toute ma vie dans une place dans mon cœur, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment su me parler et me confronter avec toute la douceur qu'il fallait pour quelque chose qui pour moi était inenvisageable. Donc oui, moi j'ai continué à travailler beaucoup. J'étais très très médicalisée. Donc j'étais pas médicalisée au niveau médicaments, parce que j'avais fait un deal, parce que ça j'étais vraiment dans un rejet total, alors que je pense que j'aurais dû, hein, sincèrement. Mais j'étais tellement fière. Et donc j'avais fait un deal avec ma psychiatre. C'était rigolo, parce que ça, je pense que c'est aussi des choses, moi, qui m'ont sorti la tête de l'eau, qui m'ont aidée. J'ai des chiens que j'adore, qui ont été mes antidépresseurs de service, mes Xanax. Et en fait, c'était, voilà, on avait fait un deal que je ne prendrais pas de médicaments si j'allais tous les jours faire une balade d'au moins 1 heure en forêt avec mes chiens. Donc ça, c'était une pratique que j'ai accepté très vite de faire. Je faisais beaucoup de kiné. J'ai commencé la sophrologie, m'a beaucoup aidée, parce que j'avais besoin vraiment de réapprendre à me reconnecter, à faire une respiration pour redescendre de mon stress, qui était devenu plus que du stress chronique. Voilà, donc je pense que c'est aussi tout cet accompagnement et petit à petit les lectures que j'en ai fait. Et avec ma psy, on a très fort travaillé sur 2 choses, sur mon degré de perfectionnisme, mais c'est un autre type de perfectionnisme. Donc moi, j'ai le syndrome de la personne qui veut vraiment, vraiment bien faire au travail, mais pour faire plaisir aussi à mes collègues. Donc moi, le sens du collectif, la collaboration, la coopération, c'est quelque chose d'hyper important. Et donc c'est vrai que moi, j'ai depuis très longtemps, maintenant je l'ai moins, heureusement, j'ai travaillé dessus, mais j'avais ce besoin de vraiment renforcer ce sentiment d'équipe. Et dès que j'avais un collègue qui était en difficulté, de venir en aide. Donc c'est pas une position de sauveuse, mais c'est plus vraiment de, voilà, coco-copinage, quoi. J'avais aussi évidemment la difficulté à dire non et à mettre mes limites, parce que vouloir que le projet avance, etc. Donc voilà, donc j'ai fort travaillé par rapport à ces 2 thématiques-là, ce qui petit à petit m'a permis aussi de retrouver une place aussi un peu plus chouette, même dans ma vie perso, parce que voilà, l'épuisement professionnel, le burn-out, c'est pas juste quelque chose. On scinde pas le professionnel et le personnel, hein, les deux sont liés de manière intrinsèque. Et donc, petit à petit, voilà, ça m'a permis aussi de reprendre une place qui était plus juste, en tout cas, en faisant des exercices par essai-erreur. Hein, donc, je testais auprès des gens de mon entourage. Parfois, ça marchait. Hein, j'étais là, c'était mes petites victoires, parce que j'en parlais à personne, que je me challengeais. Parfois, ça marchait pas du tout et je revenais dépité, je devais réessayer. Mais donc, oui, il y a eu vraiment cet accompagnement-là. Ça a duré presque 1 an. Hein. Moi, j'en ai eu pour 12 mois vraiment d'arrêt, qui reste pour moi une expérience douloureuse, parce que à la fois, j'ai appris beaucoup sur ma vie, mais j'ai perdu aussi 1 an de ma vie, quoi. Je veux dire, sincèrement, c'est un épisode que j'aurais bien voulu éviter, en tout cas.
Éviter.
Ouais.
Donc, t'as eu un an d'arrêt maladie. Et du coup, après ça, à un moment donné, tu t'es sentie prête à reprendre.
En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai de plus en plus dans l'accompagnement que je faisais, je me rendais compte que je ne retournerais jamais travailler avec ces gens. En fait, on n'avait pas du tout le même code éthique et de valeur. Et ça, c'était sûr pour moi. C'était impossible. C'était une phobie totale pour moi de me dire d'être très en contact avec cette équipe. C'était pas possible. Alors, on a fait un rendez-vous avec mon directeur de l'époque qui s'est très, très mal passé parce qu'il était très déstabilisé d'être face à moi. Il ne savait pas du tout comment me prendre, comment me parler. Et voilà, et je pense que c'est. Et pour sa décharge, je pense que c'est très difficile d'être confronté à quelqu'un qui est burn-out quand on ne voit pas les signes arriver. Et je pense que tout le monde n'est pas formé à ça. Et donc, moi, je le voyais vraiment aussi dans une espèce d'incapacité à comprendre. Parce qu'il me disait, mais tu as toujours été enjoué, etc. On n'a rien compris dans l'équipe. Et moi, devoir me justifier, mais je ne l'ai pas planifié, moi, ce burn-out. Mais je me rendais compte on était plus synchro du tout parce que lui, sincèrement, je pense culpabilisé, mais il ne savait tellement pas me parler qu'en fait, cette rencontre a été horrible, horrible. Moi, je suis repartie de là en pleurs. Je me suis dit, mais je ne vais jamais m'en sortir. Et puis, il y a quelqu'un du conseil d'administration qui m'a appelée, en qui j'avais vraiment confiance. Et là, on s'est vu, on a pu avoir une discussion sincère. Et donc, elle m'a demandé est-ce que j'étais d'accord, parce qu'évidemment, ils étaient en sous-effectif. Et effectivement, mon absence était compliquée. Ils avaient retrouvé quelqu'un de valable. Et c'est vrai que ce n'est pas possible. Pour elle commençait à avoir de plus en plus des contrats précaires. Et donc, ils m'ont demandé sincèrement ce que je voulais faire. Et donc, moi, j'ai accepté une rupture de contrat pour raison médicale.
Et c'était à quel moment ça c'était après les 1 an ou
Ouais,
c'était pendant?
non, c'était 2 semaines après les 1 an. Donc, il y a eu cette première rencontre avec mon directeur, puis il y a eu la deuxième rencontre. Et en fait, là, c'est très bizarre. Il y a eu une espèce de. J'ai eu l'impression de. Comme si j'avais fait un régime, j'avais perdu 20 kilos. Je me suis sentie vraiment beaucoup plus légère, très heureuse, très satisfaite, mais en même temps, complètement paumée aussi, parce que je me suis dit, maintenant, je fais quoi là? Parce que c'est ça aussi, être arrêtée pendant longtemps, c'est justement, tu utilisais le terme rebondir, bah, c'est est-ce que je vais rebondir? Est-ce que je vais me réinventer? Est-ce que quelqu'un va vouloir retravailler avec moi? Donc, moi, j'ai repris des études, j'ai repris une formation à l'UCL et à Saint-Louis en médiation sociale, donc en médiation du droit du travail pendant 2 ans. Parallèlement à ça, j'ai postulé. Je me suis fait accompagner par un coach à ce moment-là parce qu'il fallait retravailler justement ben, la confiance en moi, aussi retravailler ben, quelles étaient mes valeurs, qu'est-ce que je recherchais dans le boulot pour pas commettre les mêmes erreurs. J'avais très difficile pendant mes entretiens d'expliquer le trou et de dire pour quelles raisons. Donc, je restais un peu vague en disant j'ai eu un souci de santé, j'ai eu un souci de santé, mais je voulais pas aborder. J'étais très gênée encore à l'époque. Ce que je ne serais plus du tout maintenant, je pense, mais bon, je suis mûrie, je suis plus vieille, puisque bon, ça date quand même, ça fait presque 10 ans maintenant, mais j'étais vraiment ouais, dans quelque chose, je me disais, mais c'est la honte, les gens vont me prendre pour une faible, et pourtant j'avais déjà bien travaillé avec la psy, le coach, hein, mais ça restait quand même une croyance limitante pour moi. Voilà, j'ai eu la chance finalement de faire un entretien qui s'est bien passé. Ce que je savais, c'est que je ne voulais plus faire de l'accompagnement psychosocial parce que je sentais que j'étais épuisée. Mais j'avais encore envie de rester dans l'humain. Donc, j'ai trouvé un job pour devenir responsable des ressources humaines dans une association qui travaille sur les pouvoirs locaux. Alors, il y avait deux choses qui m'intéressaient. C'était les pouvoirs locaux. Pour moi, c'était proche du citoyen. Ça faisait sens. C'était important pour moi d'être dans une structure qui fasse sens. Et quand même, responsable RH, il y avait quand même le côté développement des compétences, développement des performances, accompagnement des personnes. Donc, je me sentais assez OK par rapport à ça. Donc, j'ai repris là-dedans et ça s'est bien passé. Voilà.
Est-ce que je peux juste te faire revenir un peu en arrière pour l'histoire de la formation? Donc, tu as trouvé facilement cette formation que tu voulais faire ou ça t'a pris un peu de temps pour justement rechercher cette l'aide du coach que tu t'es dit je vais me
Non,
former?
c'est une formation que j'avais vraiment envie de suivre déjà depuis un petit temps. Et là, je me suis dit, mais il faut que je me redécouvre, il faut que je me réinvente. Et c'est le moment ou jamais.
Et donc, tu étais toujours donc, à ce moment-là en incapacité de travail?
J'étais en recherche de travail. Donc, mon contrat était terminé. J'étais en recherche d'emploi, ce que je faisais
D'accord.
aussi, avec une petite sanction de l'ONEM aussi, parce que malheureusement, mon employeur avait très, très mal rempli ses documents. Donc, ça a pris 3 mois pour
Ah oui.
régulariser ma situation. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très difficile quand on est justement dans une difficulté de burn-out ou post-burn-out. C'est aussi. Voilà, d'accepter l'impact financier de se retrouver à la mutuelle et puis de se retrouver avec des indemnités de chômage. Je trouve que ce n'est pas quelque chose de facilement gérable non plus, quoi. Donc
Non,
ça,
c'est
moi,
vrai.
ça m'a fragilisée en tout cas.
C'est ça. Et donc, pendant ces 2 ans de formation, tu
Ouais.
aussi cherchais du
Travaillais.
travail.
Non, je travaillais. J'ai très vite retrouvé. Moi, une fois que mon contrat, j'ai reçu ma rupture de contrat, 2 mois après, j'avais retrouvé un
Ah oui,
boulot.
ok, d'accord.
Donc
Donc,
là,
tu faisais ça en plus,
Ouais,
ta formation. Ah oui.
donc cumulé, mais ça me donnait du sens en fait de faire cette formation. Ça me permettait de me réapproprier, de retrouver le pouvoir aussi.
Et du coup, tu t'es sentie dans ce premier boulot au niveau de ta santé. Donc, tu leur avais pas spécialement parlé de ton burn-out. Et donc, tu t'es sentie tout de suite bien ou tu
Non.
sentais encore les effets secondaires
Alors moi, je me suis sentie mais lessivée parce que recommencer un nouveau boulot, c'est pas facile. Mais en plus, c'était recommencer un boulot aussi où il y avait, enfin, c'est un nouveau métier aussi. Donc j'étais liquidée, donc j'allais dormir hyper tôt tout le temps, mais j'en parlais pas. Mais je continuais à être accompagnée par le coach et la psy. Hein. Donc moi, j'ai continué ma thérapie. Je l'ai continuée encore un an après mon burn-out. Hein. Je n'arrivais pas à lâcher. Ma psy, je disais, j'ai besoin d'avoir ce filet de sécurité. Je la voyais qu'une fois toutes les 3 semaines, mais j'avais besoin de ce filet, quoi, pour être sûre de la transition. J'ai petit à petit retrouvé le sens, mais j'en ai pas parlé au bureau de ce que je vivais. J'en parlais aux gens de la formation, par contre. Donc, j'étais pas du tout dans un déni. Moi, j'avais tout à fait accepté. J'étais tout à fait dans autre chose. Mais au boulot, voilà, j'avais toujours ce préjugé par rapport à moi. Et comme je te disais, hein, moi, j'ai tout à fait changé de prisme maintenant. Moi, j'en parle très ouvertement, mon burn-out. Je parle de ça, mais d'une manière comme si je te disais, ah, mais j'ai fait mon potage aux carottes et j'ajoute de la coriandre, quoi. Je veux dire, c'est plus du tout un tabou, mais à l'époque, ça restait quelque chose encore de fragile pour moi, quoi.
en parlait aussi moins, je pense, il y a quelques années. Je sais,
Oui,
c'est avec les années aussi qu'on en parle peut-être plus facilement
bien
maintenant
sûr.
qu'avant. Il y a peut-être
Oui.
plus de choses aussi qui sont mises en place.
Oui, et à l'époque, c'était fort lié à la dépression. Et donc, les gens disaient, ah, mais en fait, t'es dépressive, mais on dirait pas parce que tu souris. Donc, il y avait toujours ce besoin de se justifier. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Bah, c'est dans le discours lambda, hein, je veux dire. Mais maintenant, on est parti dans l'autre dérapage, c'est qu'on en parle peut-être de manière trop et pas toujours juste. Et donc, en fait, ça déforce et je trouve ça fragilise les personnes qui sont en burn-out parce que, enfin, moi, je le vois parfois dans mes accompagnements, les gens, ils remettent un certif de 3 jours. Ils sont là, oui, mais j'ai remis 3 jours parce que je suis en burn-out. Je suis là. Bon, alors on ne va pas s'auto-diagnostiquer, il y a peut-être une fragilité, mais voilà, c'est important d'utiliser les bons termes aussi parce que je trouve que c'est très dur pour les personnes qui vivent un burn-out de voir l'utilisation de ce terme actuellement, je trouve.
C'est vrai, oui, c'est très juste. Et c'est pas toujours effectivement pour la personne qui l'a pas vécu, c'est pas toujours facile effectivement de savoir exactement ce que c'est.
Ouais.
Et donc finalement, tu n'es pas retombée en burn-out depuis.
Non, je ne suis pas retournée en burn-out. Maintenant, je sais que je dois écouter mon baromètre en permanence, que ça reste quelque chose de fragile. Comme je te disais en tout début, je pense moi par exemple à la période du Covid était une période qui était très très difficile pour moi à gérer parce que voilà, donc moi j'ai changé de métier hein, depuis, donc je suis manager de bien-être au travail. Je m'occupe aussi justement des personnes en pré-burnout et qui reviennent d'une maladie longue durée. Donc voilà, je me suis formée à différentes choses, hein, donc en plus à la médiation sociale, Je me suis certifiée en diagnostic de burn-out, justement, en Chief Happiness Officer. J'ai fait une certification RH. Donc, je suis quand même très, très axée sur le bien-être des gens. Et donc, par exemple, avoir dû gérer le bien-être des gens et les risques psychosociaux en télétravail 5 jours sur 5, moi, j'ai trouvé ça extrêmement complexe d'arriver à créer du lien à travers un Teams ou un Zoom, de plus. Percevoir, sentir les gens, développer une relation, etc. Et aussi, j'ai senti justement avec ce télétravail imposé, finalement, que c'était très difficile de maintenir un équilibre vie privée, vie professionnelle. Parce que c'est très difficile de fermer son ordinateur et de se dire, oh là là, bah, maintenant c'est terminé. Alors que quand on va au travail, c'est beaucoup plus facile. Je trouve qu'il y a des espèces de rites. Justement, ben, on a 1 heure le matin de transport pour se mettre dans un état d'esprit. On va au boulot, on a 1 heure pour revenir pour clôturer ça, on peut commencer sa soirée, etc. Moi, le télétravail, je l'ai pas très bien vécu. Et donc, c'est là où je garde encore en tête, attention, c'est quelque chose de fragile, quoi. Je veux dire, même si on a bien travaillé sur soi, il faut rester très, très vigilant. Voilà, moi j'ai mis en place aussi des stratégies, hein. Sincèrement, moi je suis surinvestie dans le sport parce que j'ai compris que moi c'était ma manière de gérer mon stress. Et donc je fais beaucoup de running, je fais beaucoup de boxe. Pour d'autres, ce serait la méditation ou la sophro. Voilà, chacun doit trouver son, finalement, ce qui l'ancre. Et c'est vrai que moi je me mets des petits réveils maintenant pour m'obliger à me dire, même si je n'ai pas terminé mon boulot, bah, ma cocotte, c'est la vie, c'est pas ton bébé. Et ce que j'ai mis en place vraiment pour m'aider aussi, pour ne pas retomber, c'est je me suis beaucoup investie dans des activités connexes au travail pour être sûre de... Voilà, pour moi, le sens, c'était quelque chose de vraiment important. Je pense que même si on le voit, on ne le retrouve pas toujours dans nos boulots. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux trouver du sens dans ma vie, quelque chose qui me parle. Et c'est vrai que... Bah, j'ai la chance, je me suis investie dans plusieurs projets de bénévolat. Donc, je suis mentor pour un très chouette projet qui s'appelle Team for Job. Je fais beaucoup de running, donc je soutiens beaucoup d'associations qui font sens pour essayer de sensibiliser à des causes. Et je lis des mémoires d'étudiants, justement, dans le cadre de l'ICHEC ou d'une école d'assistance sociale. Et en fait, moi, c'est ça qui fait ma richesse et c'est ça qui me donne la niaque de me dire, ben, même si j'ai une journée de boulot qui est un peu pourrie, parce que ça nous arrive, hein, je veux dire, toutes nos journées ne sont pas belles, j'ai quand même chaque fois la niaque de me dire, waouh, mais moi j'ai tout ça en plus, quoi. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment cette question de, pour rebondir, si je reviens à ta question de départ, c'est comment on peut rebondir, ben, rebondir, c'est vraiment en connaissant ses valeurs, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait sens. Et pour moi, ce qui a été aussi, en tout cas, un très, très gros déclencheur, c'est vraiment de travailler sur les relations interpersonnelles, la solidarité, la coopération. Et vraiment, je pense qu'une des choses qui m'a mis dans mon burn-out, c'est à un moment de me rendre compte qu'il y avait 3 projets, le mien n'était pas soutenu, je ne me sentais pas soutenue par mes collègues. Et en fait, je me suis sentie même liquéfiée. Et vraiment, maintenant, c'est de me dire, non, non, moi, je dois travailler dans un environnement de travail où j'ai des gens aussi qui me permettent de grandir, qui me permettent de me découvrir, qui me permettent de vibrer et à qui je peux dire de temps en temps, je suis pas d'attrage, j'ai plus la niaque, on fait quoi, on fait comment, et faire la même chose pour eux. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment une des clés en fait pour se sentir bien au boulot, c'est vraiment avoir des relations interpersonnelles harmonieuses. Ce qui ne veut pas dire avoir des nouveaux meilleurs amis, mais en tout cas vraiment avoir des collègues où on se dit le matin. Waouh, c'est chouette, j'ai envie de le voir, j'ai envie de sourire avec lui. Voilà.
Oui, c'est ça, avoir une confiance et une transparence finalement, de pouvoir exprimer ses sentiments et de pouvoir aussi ne pas être que un, mais une équipe, quoi, c'est ça, dans ton boulot.
Exactement, oui.
Et au niveau de la recherche de sens, que je trouve assez riche et je trouve intéressant que tu en parles, et que moi je trouve important aussi chez Job & Sense, c'est dire, bah, effectivement, trouver du sens dans son travail. Oui, et si voilà, le sens de son travail, c'était finalement, c'est aussi bien si c'est en fait de se rendre compte que son travail est aussi en partie un job pour nous payer nos factures, etc., mais que de s'en rendre compte, on n'est pas toujours obligé d'avoir un boulot qui est parfaitement, qui a du sens pour la société de demain, qui a du sens pour nous, etc. Enfin, parfois le sens c'est ça peut être juste ça, mais aussi retrouver du sens comme tu dis dans ces activités connexes et se dire qu'en fait, on a plus que le travail en fait dans notre vie. On
Bien
peut,
sûr.
il y a plein de choses dans lesquelles on peut justement trouver ce sens, et c'est pas nécessairement toute la journée, 5 jours sur 5 au travail. Et voilà. Ou même dans son travail, parfois, je trouve ça intéressant de dire, mais en fait, ça peut être une petite chose dans son travail, une petite chose qu'on fait même parfois bénévolement, ou qu'on s'investit dans un projet, par exemple, de l'entreprise, qui nous donne du sens, et que, voilà, on n'est pas obligé de se casser la tête à avoir finalement tout qui fait sens, quoi. Voilà.
C'est très juste.
Voilà. Je trouve qu'on a déjà fait un beau tour d'horizon de ton parcours, mais je trouvais ça intéressant aussi d'avoir ton côté, maintenant que tu es de l'autre côté, c'est-à-dire la partie plus employeur qui soutient justement les personnes dans le retour au travail, réintégration, etc. Si là tu pouvais nous donner quelques conseils ou des choses que tu trouves intéressantes.
Ce que je donne souvent comme conseil, moi, dans les accompagnements que je fais, ben, chaque burn-out et chaque épuisement est différent, chaque personnalité est différente. Hein. Donc, j'aimerais bien vous dire, voilà, il y a un mémo, il y a l'étape de 1 à 8 et tout ira bien, mais en fait, tout est variable. Ce que j'essaye de faire, c'est de vraiment conscientiser, sensibiliser vraiment par rapport à la gestion du stress. Je trouve que c'est vraiment un baromètre important et pour ça, d'expliquer ben voilà, les différentes techniques qui permettent de réduire le stress et de réajuster cette balance entre ben voilà, ce qu'on a comme énergie et quelles sont les demandes autour de nous, de vraiment toujours faire attention à essayer que cette balance soit équilibrée et pour rééquilibrer, il faut se réénergiser. Pour se réénergiser, c'est vraiment essayer de se poser les questions, de fermer les yeux, de se dire mais finalement, qu'est-ce qui fait que moi je me sens bien? Et comme je disais, bah, pour certains c'est le sport, pour d'autres c'est la méditation, pour d'autres c'est la relaxation, pour d'autres c'est aller faire une expo, pour d'autres c'est le jardinage. Ça fait toujours rire, mais le jardinage aide vraiment beaucoup les gens, sincèrement. Et donc, voir avec eux, voilà ce qui est important aussi, c'est le yoga. Aussi, apprendre des techniques de relaxation. Moi, je sais que quelque chose qui est très, très facile, enfin, il y a deux trucs que je trouve hyper chouettes, c'est via des applications. Donc, il y a l'application Calme et il y a l'application Respire Relax. C'est une technique de sophrologie, la respiration carrée, c'est-à-dire qu'on inspire pendant 4 secondes. On maintient son énergie, sa respiration pendant 4 secondes, on expire pendant 4 secondes et on retient à nouveau 4 secondes. Donc, c'est ce qu'on appelle la respiration carrée. Et sinon, il y a la cohérence cardiaque. Ce qui est chouette aussi de savoir, c'est que de plus en plus, les mutuelles interviennent même dans les applications e-santé à raison de 20 euros par mois. Donc, c'est un petit investissement de 30 euros par an. Et ce qui est super, c'est… On peut le faire dans les toilettes du bureau, on peut le faire dans le tram, on peut le faire discrètement. C'est des petits exercices de quelques minutes. Donc ça, je pense que c'est important. L'alimentation saine, très, très sincèrement, parce que ça permet de justement avoir un bon niveau d'énergie. Quand on sent qu'on commence à être dans un épuisement… Voilà, je sais que ça fait un peu moralisateur, mais je pense que c'est important aussi de diminuer sa consommation d'alcool parce que l'alcool, malheureusement, fatigue énormément. Alors, ça peut être quelque chose qui permet de un petit peu s'évader, mais en fait, au final, ça fatigue très, très fort. Donc, vraiment aussi faire attention si vous sentez que votre consommation de café, de tabac ou alcool augmente. Pour moi, c'est un signal où on doit se dire, tiens, il y a quand même quelque chose, mon corps est en train d'envoyer un signal. Donc, vraiment faire aussi attention à ce que je disais, un work-life balance, donc vraiment équilibre vie privée, vie professionnelle. Et comme tu le soulignais très justement, Victoria, trouver du sens, mais du sens en dehors. Et le sens, ça peut être aussi avec la famille, avec les amis, aller faire des activités culturelles, aller faire des trails. Mais voilà, le sens n'est pas qu'au travail. On a de la chance si on a du sens au travail, mais pour moi, le sens doit se trouver surtout en dehors du travail pour avoir vraiment son propre quota d'énergie. Donc, et travailler aussi sur l'importance de, voilà, de bien mettre ses limites. Et quand on demande à un employé de faire quelque chose, vraiment se poser la question, Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je sais le faire? Et si ces trois questions ne sont pas répondues, renégocier un autre délai, négocier d'avoir des effectifs en plus, essayer de négocier pour dire, mais en fait, moi, cette tâche, je la sens pas, ça marche pas, est-ce que je peux pas en faire une autre? Ne pas hésiter à communiquer, dialoguer dans vos entreprises, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là aussi pour vous écouter. Il y a les personnes de confiance, il y a vos RH, il y a vos managers. En dehors des entreprises, il y a les conseillers en prévention, aspects psychosociaux. Je pense qu'on a aussi une co-responsabilité et que c'est important aussi de pouvoir faire appel à un réseau de personnes qui sont là pour nous aider plutôt que de sombrer et de se positionner dans une posture de victime. Donc, je pense que c'est vraiment aussi important de pouvoir s'ancrer et sentir ce qui se passe et dès qu'il y a quelque chose, ou même vos collègues, en fait, simplement le soutien des collègues, c'est quelque chose de dingue aussi, donc il ne faut pas hésiter, quoi.
Ça, avec des collègues de confiance à
Oui,
qui on
tout
peut
à fait.
parler. Voilà. Ouais. Et oser dire non, quoi, c'est ça.
Oui, ça c'est pour moi, je pense que c'est. Et aussi, voilà, je pense qu'on a tous envie de bien faire, mais à part Buzz Leclerc, à l'infini, nul n'est tenu. Hein, je veux dire, on ne
Voilà.
sait pas tout faire, c'est impossible. Voilà, et c'est pas grave si on n'arrive pas à faire des choses. Par contre, notre responsabilité, c'est de demander de l'aide et de pouvoir en parler. Voilà, c'est sympa.
Ben, et je peut-être pour terminer, est-ce que tu voudrais dire quelque chose à toutes les personnes qui sont justement en train de vivre cette situation pour le moment et qui sont donc en plein dedans? Voilà.
Oui, ben, je pense que la première chose, c'est vraiment de. Je sais que c'est difficile qu'on est dans une période où, en fait, c'est un espèce de tsunami qui nous tombe dessus. Hein. Donc, c'est terrible, mais que la première chose, c'est on s'en sort grandi, on se redécouvre, on se réinvente, on prend encore plus plaisir des petites choses de la vie. Donc, même si vous êtes en début d'épuisement, de burn-out et que. Vous voyez tout en flou, ben voilà, le flou, le brouillard va partir et revenir. Et moi, j'ai une petite phrase de Golda Meir que j'aime beaucoup, beaucoup et je trouve et je vais vous la lire parce que je la trouve vraiment chouette. C'est vraiment de se dire, ben, crois en toi, deviens le genre de personne que tu seras heureuse de vivre avec qui tu seras heureuse de vivre toute ta vie. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire. C'est une période hyper difficile, un burn-out, mais c'est aussi une opportunité de dingue pour se redéfinir et devenir quelqu'un d'encore plus chouette que ce que vous êtes et vous allez y arriver. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup Stéphanie pour tout ça, pour le partage de ton parcours, pour toutes les petites astuces, conseils et tout ça a été très riche en tout cas. Merci beaucoup à toi et à bientôt.
À tout bientôt. Bonne journée.
J'espère que ce témoignage t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à nous le dire et à partager celui-ci autour de toi. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.